Deutsche Welle. Droits et libertés.
Après les attentats de l'année dernière contre le musée juif de Bruxelles et ceux début janvier 2015 en France ou ceux de la mi-février au Danemark, des attaques toutes commises au nom de l'islam, les États européens se posent maintenant la question de la radicalisation islamiste dans les prisons. Nous allons voir du côté du Danemark justement en quels termes le problème est posé dans le milieu carcéral. Et puis pour changer un peu des discours relayés en Allemagne, notamment sur les nouvelles autorités grecques, eh bien nous donnerons la parole à des habitants de Thessalonique qui soutiennent encore massivement Alexis Tsipras et les remèdes qu'il propose à la crise traversée par la Grèce. Une petite piqûre d'enthousiasme populaire en ces temps moroses, ça ne peut pas faire de mal. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Il était fou quand il est sorti de prison, il était complètement dingue. C'est ainsi que commente un chauffeur de taxi de son quartier d'origine l'état du jeune homme, auteur présumé des attaques terroristes qui ont visé le Danemark à la mi-février et qui ont fait 2 morts et 5 blessés. Amateur d'armes, toxicomane et auteur d'une agression au couteau, le jeune homme a été incarcéré fin 2013 et c'est âgé de 22 ans qu'il a été libéré fin janvier 2015. Et à sa sortie, ses amis d'enfance ne l'ont plus reconnu. Lui qui s'intéressait avant aux filles et aux voitures ne parlait plus que de religion. Il disait même vouloir gagner la Palestine, d'où sa famille était originaire. Le 17 février, les services de renseignement danois annonçaient que l'administration pénitentiaire avait signalé le jeune homme aux autorités pour risque de radicalisation. C'était en septembre 2014, alors qu'il était encore en détention. Nous n'allons pas revenir ici sur les manquements éventuels des services de sécurité et de renseignement qui sont aussi en cours de discussion, mais plutôt sur une autre question qui taraude les gouvernements européens. Comment éviter que des détenus basculent dans le radicalisme religieux au cours de leur détention? 2 options sont débattues actuellement au Danemark en guise de réponse. Faut-il isoler ou intégrer les fondamentalistes religieux en milieu carcéral? Omar Abdelhamid El Hussein, c'est le nom du terroriste présumé de Copenhague, mais son cas n'est pas isolé. Un ancien prisonnier raconte à la télévision danoise, sous couvert d'anonymat, comment d'anciens co-détenus ont tenté de profiter de sa foi musulmane pour le radicaliser.
Il voulait que je me mette à haïr les gens, les juifs, les danois, tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Il disait qu'on avait le droit de tuer un juif. Bien sûr que c'est faux, mais c'est ce qu'il me disait. Alors j'ai commencé à réfléchir. Leur technique, c'était de devenir ton ami pour te faire un lavage de cerveau.
Jim Latrache aussi était en prison jusqu'en octobre dernier pour une affaire de stupéfiants et lui aussi témoigne de la sensibilité de nombreux détenus aux discours islamistes.
On cherche à s'entourer et l'un des moyens d'y arriver, c'est de devenir plus religieux.
Le syndicat des fonctionnaires des services pénitentiaires met de plus en plus en garde contre la formation de groupes radicaux au sein même des prisons et de la radicalisation religieuse de petits délinquants à leur contact. L'opposition danoise réclame alors des mesures fortes au gouvernement, emmenées en ce moment par les sociodémocrates.
Ce serait une bonne chose d'isoler les islamistes radicaux.
Voilà ce que suggère Carsten Lauritsen, un point de vue d'ailleurs partagé par Karina Lorentzen du Parti Socialiste Populaire.
Nous devons prendre les idéologues qui forment les terroristes et les mettre à part.
Dans le cas El Hussein, le gouvernement danois est critiqué pour son manque de réaction adéquate, alors même que les services étaient au courant de sa dangerosité potentielle depuis plusieurs mois. La ministre de la Justice, Mette Frederiksen, promet de resserrer la vis.
Il va de soi que la prison ne doit pas être un lieu où l'on est poussé à commettre de nouveaux crimes ou bien où l'on se radicalise. L'isolement pourrait être une option envisageable.
Envisageable d'un point de vue politique, peut-être, la solution fait d'ailleurs quasiment consensus, mais ce type de réponse est-il réellement efficace? L'ancien détenu qui a préféré rester anonyme en doute.
Qu'est-ce qu'on fait si jamais on a isolé quelqu'un à tort? Le type, il va être plein de haine, et puis il deviendra à son tour un de ceux qui veut laver le cerveau des autres.
Khatera Parvani s'occupe de jeunes musulmans radicalisés à Copenhague et elle estime que leur nombre est effectivement en train d'augmenter. Mais elle pense aussi qu'il faut contrer autrement la séduction qu'opère sur eux une idéologie radicale.
On peut craindre, c'est sûr, que d'autres attaques de ce genre aient lieu. Et bien sûr qu'il faut tout faire pour les empêcher. Mais nous devons aussi chercher des voies alternatives, prendre le temps de la réflexion. Qu'offrir à ces jeunes qu'un environnement extrémiste ne puisse pas leur proposer.
Des perspectives sociales, morales, politiques, économiques qu'il faut leur proposer avant qu'ils n'atterrissent en prison. Car certains d'entre eux tombent aussi dans les griffes des religieux radicaux en tentant d'échapper à des bandes criminelles organisées. C'est ce que nous raconte Puk Saber du café Exit à Copenhague, spécialisé dans la réinsertion d'anciens détenus. Elle nous explique que souvent ce sont de pauvres types, un peu seuls, renfermés, drogués ou sans abri. Ils accumulent les problèmes sociaux, alors ils ont l'impression de trouver la sécurité et un entourage auprès des islamistes, sans parfois même se poser la question des motifs réels de ces gens qui les approchent. Mais qui d'autre, se demande Puk Saber, leur donne l'impression de trouver leur place? Et est-ce que vous, vous auriez vraiment envie de vous occuper d'un criminel de 22 ans, déjà condamné par la justice? Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Pour terminer, je vous propose une petite plongée à Thessalonique. C'est en Grèce. Les nouvelles autorités grecques, issues en majorité de la gauche radicale, essaient de renégocier, vous le savez, les modalités de remboursement de l'aide accordée à la Grèce par ses créanciers pour lui éviter la faillite. Et le parti Syriza a gagné les élections en début d'année sur un programme assez radical qui s'oppose ouvertement aux solutions libérales proposées depuis plusieurs années pour remédier à la crise sociale, économique et politique que traverse le pays. Au moment où nous enregistrons cette émission, on ne sait pas encore ce qui ressortira de la réunion de l'Eurogroupe, mais le ton et les idées de Syriza sont très critiquées au sein de l'Union européenne, et notamment en Allemagne, par la Banque centrale européenne aussi et le FMI. Mais sur place, le gouvernement grec emporte encore l'adhésion de larges pans de la population. Petit florilège d'une euphorie qui se maintient chez les électeurs de Syriza.
Rien que le fait de relever la tête et de négocier d'égal à égal avec Bruxelles, c'est un progrès énorme. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Nous avions toujours l'impression de ne pas être pris au sérieux par nos partenaires européens. Maintenant, on est à nouveau à l'écoute de nos problèmes. Dans un État moderne, il ne suffit pas de porter une cravate pour être un bonhomme politique.
Le plus important maintenant, c'est qu'on soutienne le pays comme il faut. Les gens doivent pouvoir vivre de leur salaire. Ils doivent pouvoir avoir une voiture et payer leur loyer, aller au théâtre, partir en vacances. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tolérer, comme c'était le cas avec l'ancien gouvernement, que les jeunes de moins de 25 ans voient leur revenu limité à 400 euros par mois.
Depuis les élections, une formidable dynamique a émergé. Personne ne peut sérieusement prétendre que nous allons mieux, mais nous nous sentons plus forts, même s'il faut attendre le verdict. Le nouveau gouvernement est en place depuis quelques semaines seulement. Pour l'instant, il n'y a pas de grands changements dans nos porte-monnaies, mais on a changé dans nos têtes. Et chez nous, c'est ça qui fait la différence. Depuis les élections, j'ai vraiment plus de clients dans mon restaurant.
Oh, libération dans une relative opacité. Doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de votre fidélité et à Christophe Heinzle et Milona Mirianti pour les sons. Si vous souhaitez télécharger ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.de/français. Et là, soit vous allez dans la rubrique nos podcasts, soit vous vous rendez directement dans la médiathèque. Et puis, pour nous écrire, réagir à nos magazines ou nous faire des suggestions, une seule adresse pour vos courriels, français@dw.de, sans la cédille à français, comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.
Ma révolution prend du sens dans le Congo pour les chégués chétifs qui traînent pour le Congo. Un pays riche que les imbéciles ont divisé, reste là à diviser l'histoire, reste à réviser ma révolution. Et les solidaires des Kanaks, des aborigènes ou bien des Indiens Arawak. Ma révolution, c'est pour tous ces morts de Guinée, tombés sous les balles pendant que l'opinion se débinait. Ma révolution, la vérité c'est ma nature, elle vient de faits divers, de causeries puis de lecture. Ma révolution, dans ma vie c'est la constante, la ligne directrice de la génération consciente. Ma révolution, c'est pour Gamal Abdel Nasser, Kécher, Rantadio, le pharaon m'a rendu fier. Ma révolution, je suis un activiste musical, rebelle et marginal, Awadi, super radical. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes soeurs sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères, tous les militants qui luttent. Ma révolution. Sur le continent qui lutte, ma révolution. Dédicace à tous les combattants, mes frères, tous les militants qui luttent.